commence ce journal avec une étude parue dans Nature Physics. Des physiciens viennent de déplacer des électrons à des vitesses proches de la vitesse de la lumière.
Et cela fait des années que l'on cherche à conduire l'électricité le plus rapidement possible. Lors d'une expérimentation, une équipe européenne a conduit des électrons à se déplacer à des vitesses somme femtoseconde. Donc à moins d'un quadrillionième de seconde. Pas facile à dire.
Quadrillionième.
Merci. On pourrait resituer à l'heure actuelle. Nos composants électroniques, basés sur des semi-conducteurs au silicium, sont activés en picosecondes, des milliers de milliards de secondes, donc 1000 fois plus lentement qu'une femtoseconde. Pour réaliser cela, ils ont notamment utilisé des impulsions laser. L'idée, c'est d'utiliser l'impulsion lumineuse pour contrôler les propriétés des électrons. C'est de la recherche fondamentale, hein, il faudra du temps pour pouvoir l'appliquer, mais à terme, cela pourrait repousser les actuelles limites des systèmes informatiques. Marino Marcy est physicien au laboratoire de physique des solides à l'université Paris-Saclay.
Et ils ont couplé deux éléments de technologie extrêmement poussés, qui est vraiment la limite de la technologie d'aujourd'hui. D'un côté, des impulsions de lumière très 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 courtes qui permettent d'accéder à l'échelle de ce qu'on appelle l'attoseconde. L'attoseconde, c'est un temps qui est plus court que 1 millionième de milliardième de seconde. C'est un temps infiniment court qui correspond au temps de l'orbite d'un électron dans l'atome. Donc c'est l'échelle de temps typique des électrons, en quelque sorte, dans la matière. Et d'un autre côté, ils ont aussi réalisé un dispositif, un nanocontact, c'est-à-dire de contact électronique, sur une échelle très petite, et qui permet de faire passer les courants sur une échelle d'espace très très petite, donc de l'échelle des atomes. Et donc, ils ont réalisé un proof of principle pour montrer qu'on peut transférer des électrons sur une échelle presque atomique, et sur l'échelle de temps la plus courte possible. La nouveauté de la manip, c'est vraiment de coupler les deux choses. Les deux aspects sont de la technologie de pointe, et coupler les deux, c'était vraiment la nouveauté de cette expérience. Ce qu'ils ont montré ici, c'est qu'on peut réaliser un principe de switch, de transistor, des millions de fois plus rapide. Donc ça pourrait être vraiment une nouvelle génération de dispositifs électroniques pour faire passer l'information plus vite, pour la stocker plus vite, pour tout faire beaucoup plus vite.
En bref, une équipe internationale a utilisé la technologie des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 pour éditer des plants de tomates.
Oui, pour rendre ces plants de tomates beaucoup plus compacts, comme des vignes, et pour accélérer leur rendement. Alors les résultats viennent de paraître dans la revue Nature Biotechnology. Les fruits poussent en grappe et mûrissent plus vite. Les généticiens ont restructuré le génome de la tomate et ils ont modifié deux gènes, les gènes SP et SP5G, qui contrôlent la croissance et la taille des plants, et le gène SIER, qui contrôle la longueur des tiges. Alors les auteurs disent vouloir créer une plus grande variété de cultures, plus adaptée aux environnements urbains. Selon eux, diminuer le temps des récoltes et la taille des plantes pourrait révolutionner l'agriculture urbaine.
En bref, toujours, selon une étude parue dans Nature Energy, nous produisons plus qu'assez d'énergie pour que tous les humains de la planète aient une vie décente.
Mais une équipe autrichienne a calculer quels étaient les besoins énergétiques d'une société pour subvenir aux besoins fondamentaux de chacun. Leurs calculs montrent que pour fournir les bases d'une bonne santé, d'une bonne nutrition et d'une bonne éducation, cela nécessite très peu d'énergie. Et il s'avère que chaque économie génère déjà suffisamment d'énergie pour garantir à chaque personne un niveau de vie décent. Développement économique et stabilisation du climat sont compatibles, c'est la conclusion de ce papier.
On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal, l'étoile 49 Ceti interroge la théorie de la formation des planètes.
L'étoile 49 Ceti se trouve dans la constellation de la Baleine, à 186 années-lumière de nous. C'est une jeune étoile, vieille de 40 millions d'années. Elle a été détectée par l'observatoire ALMA au Chili. Alors ce n'est pas 49 Ceti qui pose problème en soi, mais le disque de gaz très massif qui l'entoure. Selon nos modèles cosmogoniques, les planètes se forment dans des disques gazeux et poussiéreux qui entourent les jeunes étoiles. C'est ce qu'on appelle les disques protoplanétaire. Alors, à son âge, à 40 millions d'années, l'étoile 49 Ceti ne devrait plus avoir ce disque. Arthur Vigan est astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Marseille.
Le disque de gaz qu'on a détecté autour, c'est pas forcément une surprise de trouver du gaz là, mais c'est une surprise d'en avoir trouvé autant, parce que les systèmes planétaires se forment autour de leur étoile dans un nuage de gaz et de poussière. Mais en fait, au bout d'un moment, le gaz, il a tendance à se dissiper avec le temps, notamment parce que les planètes vont en absorber une partie, mais aussi parce que le vent stellaire va chasser ce gaz vers l'extérieur. Et donc, trouver beaucoup de gaz après 40 millions d'années, c'est un petit peu une surprise, parce qu'on s'attendrait à ce qu'il ait déjà disparu à cet âge-là. Disons qu'il y a dans la formation de planètes, il y a différentes phases. Dans un premier temps, la poussière dans le disque va progressivement s'agréger en faisant des particules de plus en plus grosses, jusqu'à former des cœurs rocheux qui sont à peu près de la taille de la masse de la Terre, voire même plus massifs que la Terre. Et en fait, ces cœurs rocheux vont ensuite accréter du gaz, parce qu'évidemment, avec la gravité, ces cœurs rocheux, ils vont commencer à accréter du gaz dans le disque, de plus en plus de gaz, et progressivement, ils vont former des planètes géantes, des géantes gazeuses, un petit peu comme Jupiter ou Saturne dans notre système solaire. Et une fois que ces planètes géantes sont formées, bah, y a une grande partie déjà du gaz qui va être dans l'atmosphère de ces planètes-là. Et en fait, on pense que les planètes géantes, elles se forment en quelque chose comme une dizaine de millions d'années maximum, qui est à peu près le moment où on s'attend à ce que le gaz disparaisse des sites, alors que les planètes telluriques comme la Terre, elles se forment sur des échelles de temps beaucoup plus longues, de quelques centaines de millions d'années.
En bref, une étude parue dans le British Medical Journal met en lumière une disparité de genre dans le monde des sciences.
Oui, l'autopromotion. Dans les résumés d'études où les chercheurs présentent leurs travaux, on peut lire des adjectifs comme nouveau, unique, prometteur, sans précédent. Une équipe internationale a analysé plus de 6 millions d'études parues entre 2002 et 2017 dans des revues de référence. On constate que l'usage de ce vocabulaire flatteur varie selon le genre de l'auteur. Les chercheuses utilisent beaucoup moins de termes positifs pour présenter leurs études, jusqu'à 20% au moins que chez les hommes, que pour les hommes. On sait aussi que par la suite, les publications présentées de façon positive sont ensuite plus citées. Donc selon ce papier, voici un autre biais qui pénalise les carrières des chercheuses.
Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé de nouvelles datations sur l'extinction de l'Homo erectus en Indonésie, mais aussi de l'hyper-kamiokande, le futur détecteur de neutrinos japonais. Nous avons vu également comment le réchauffement climatique menace les abeilles. Et nous avons parlé d'une nouvelle cartographie du striatum, la zone cérébrale qui régule la motivation. Mais cette semaine, également dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref.
Lundi, la Russie a annoncé avoir testé avec succès son propre Internet, le Runet, son propre réseau coupé du web mondial. Il y a quelques semaines, nous en parlions ici plus longuement dans notre émission Internet nationalisé, la liberté au pied du mur. En 2020, SpaceX, la compagnie d'Elon Musk, va envoyer 3 fois plus de fusées qu'en 2019 pour son projet Starlink. Ce sera environ 3 lancements par mois, 120 satellites sont déjà en orbite. À terme, le projet en prévoit 12 000. Les astronomes s'inquiètent de la pollution d'un tel projet, tant pour les observations astronomiques perturbées que pour les futurs débris spatiaux. Et enfin, en Floride, les zoologues viennent de découvrir que les crocodiles peuvent galoper. Leurs travaux publiés dans la revue Scientific Reports prouvent que c'est une faculté très répandue chez ces reptiles. En moyenne, les crocodiles galopent à 18 km/h.
Comme chaque vendredi, on termine par la rubrique des sciences improbables, avec ce vendredi une improbabologie spéciale fête de fin d'année. Vous nous régalez, rapportée par le journal Annals of Internal Medicine.
Oui, c'est un cas unique. Un homme en Allemagne s'est présenté aux urgences avec des nausées, des vomissements, des malaises. Les analyses ont montré qu'il avait tellement de graisse dans le sang que son sang est devenu blanc et épais. Sur les photos, on le voit, ça ressemble à du lait. Les tests sanguins ont montré que ses taux d'acide gras et de glycérol étaient 36 fois plus élevés que les seuils maximums. Alors pour le sauver, les médecins ont pratiqué une saignée.
Bon appétit, merci beaucoup Natacha. On vous retrouve la semaine prochaine, jeudi et vendredi, surtout pour un grand et gras et beau journal des sciences spécial 2019.